sur le sermon sur la montagne et le thème de ce verset que nous allons partager ensemble ce matin, c'est un cœur pur. Et comme je le disais dans ma prière, ce sermon sur la montagne et ce sermon qui met en place, où Jésus va mettre en place les principes fondamentaux du vécu. Nous sommes appelés à vivre donc le royaume de Dieu alors que nous sommes sur cette terre. Et donc, ce matin, on prend ce verset « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Et comme j'aime bien le faire, et peut-être que vous le faisiez vous aussi, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, simplement en lisant ce verset « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu », on voit que Jésus nous parle d'un cœur pur et de voir Dieu. Et si on prend le verset à l'envers, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire, mais est-ce que Jésus est en train de nous dire que ceux qui n'ont pas le cœur pur ne verront pas Dieu ? On peut le supposer en tout cas. Et donc, je pense que c'est important. En tout cas, moi, ça m'interpelle et j'ai envie de comprendre. Et c'est ce que je voudrais vous partager ce matin. Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner au travers de cette simple phrase ? Et au travers de moi, en tout cas, dans cette phrase, je vois quatre éléments, parce que il y a un élément qu'on peut décomposer en deux. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Hein, le premier élément, comme à chaque fois, d'ailleurs, dans ces béatitudes, il y a le fait que Jésus commence toujours par le mot heureux, hein, je vous rappelle, qui en fait on peut plutôt le voir et dire que Jésus est en train de dire que nous serons bénis par Dieu lorsque nous vivons les éléments qui suivent. Donc ça c'est quand même quelque chose qui me parle, moi en tout cas, hein, j'ai envie d'être béni par le Seigneur. Et c'est ma vie, quoi. J'espère en tout cas pour vous que c'est aussi votre vie. Et donc dans ce verset, Jésus va dire « Heureux hein, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Donc, il nous parle du cœur, hein, c'est le terme « cardia » donc en grec. Et on va regarder ce matin ce que Jésus dit quand il nous parle du cœur. Qu'est-ce que c'est notre cœur ? Qu'est-ce que c'est cette notion de pureté ? Qu'est-ce que Jésus entend derrière cette notion de pureté ? Et qu'est-ce que Jésus entend quand il nous parle de voir Dieu, hein, car ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Et je vais donc commencer par cette notion, justement, quel est le sens de « ils verront Dieu ». Parce que, ça me semble important dans tout ce qu'on va voir, ce matin, au travers de cette notion de cœur pur, c'est pour quelque chose de précis, c'est-à-dire c'est pour « ils verront Dieu ». Et ce que j'aimerais, c'est que, alors qu'on va donc regarder ensemble, vous ne perdez pas de sens dans tout ce qu'on va vous partager. Sachez que derrière tout ça, il y a cette notion de voir Dieu. Donc, qu'est-ce que Jésus veut nous dire quand il nous parle de voir Dieu ? Alors, comme je l'ai écrit ici, Jésus nous dit quelque chose de plus profond que de voir avec ses yeux. Jésus n'est pas seulement en train de dire que celui qui a le cœur pur, il verra avec ses yeux Dieu, même si c'est vrai, parce qu'un jour, bien sûr, on sera avec lui. Aujourd'hui, alors que nous sommes sur cette terre, nous ne voyons pas Dieu, nous ne voyons pas Jésus avec nos yeux, mais un jour, on le verra avec nos yeux. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Or, ce verset s'adresse à nous déjà aujourd'hui. Je vous rappelle que Jésus est en train de parler, quand il parle des béatitudes, il est en train de définir quelque part le royaume de Dieu sur cette terre que nous sommes appelés à vivre les uns et les autres. Donc, quelle est cette notion ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on doit entendre quand Jésus nous parle de « ils verront Dieu » ? Eh bien, le premier élément, la première chose, et quand on regarde justement ce mot grec, c'est cette notion de connaître Dieu. Jésus est en train de dire, en fait, ceux qui ont le cœur pur, ils connaissent Dieu, ou ils vont connaître Dieu. Dans notre cheminement, jour après jour, on a cette connaissance de Dieu, on a cette révélation de Dieu. Et il me semble que c'est ça qu'il faut qu'on comprenne, qu'on saisisse quand Jésus nous dit que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Alors que je suis cet enfant de Dieu qui est en train de vivre ma vie sur cette terre, alors que je suis en train de vivre le royaume de Dieu, parce que Dieu a une importance dans ma vie, je suis celui qui, déjà aujourd'hui, progresse dans sa connaissance de Dieu. Et ça, c'est un des éléments. L'autre élément, c'est, mais qui est un peu la même chose quelque part, mais on le dit autrement, c'est-à-dire que, eh bien, on est comme celui qui devient un familier de Dieu. On dit qu'on fait partie de la famille de Dieu, mais dans le sens profond du terme, on est dans cette intimité. Donc, quand Jésus va dire « heureux ceux qui ont le cœur pur », il est en train de nous dire que ceux qui ont le cœur pur, ben, ils verront Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont le cœur pur, eh bien, ce sont ceux, ils deviennent, eh bien, des familiers de Dieu, des intimes de Dieu, ceux qui connaissent Dieu. Alors, peut-être qu'on peut se poser la question, et ben, je vais me poser à moi-même, je vous la pose à vous ce matin, est-ce que vous êtes intéressé? Est-ce que ça a un sens dans votre vie? Est-ce que, maintenant je vous dis ça, mais je suppose que si vous êtes là ce matin, c'est vrai. C'est-à-dire que votre désir, c'est d'être vraiment cet intime de Dieu, ce familier de Dieu, celui qui connaît vraiment Dieu. Pas une simple connaissance comme ça, mais celui qui connaît Dieu, je veux dire, jour après jour, un peu plus, qui est dans cette intimité vraiment profonde avec le Seigneur. Voilà le sens de « ils verront Dieu ». Alors, ça me semblait important de définir cet élément-là avant de regarder le fait que Jésus va dire « heureux ceux qui ont le cœur pur ». Et donc, on va… Voilà, que signifie justement avoir un cœur pur? Donc, on va s'arrêter un petit peu sur cette notion de cœur, même si d'ailleurs, au travers des prédications qui ont été faites, notamment par Thierry, on a déjà un petit peu défini cet élément-là. Mais voilà, c'est quand Jésus nous dit, qu'il nous parle ici de ce cœur pur, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Moi, je vous rappelle que notre cœur, eh bien, c'est le centre, ce que Jésus est en train de dire, c'est le centre, le siège de notre vie spirituelle, c'est-à-dire notre âme, ce qui vient toucher notre âme et notre esprit. C'est aussi, notre cœur, c'est la source, le siège de tous nos désirs, de nos envies, de nos buts, des efforts qu'on va faire. C'est tout cela est fait avec notre cœur, avec ce que nous sommes. Le cœur, c'est le centre de nos sensibilités, de nos affections, de nos émotions, de nos désirs, de notre passion, enfin de nos passions plutôt. On voit, enfin c'est tout ce qui est notre vie en fait. C'est le siège de notre volonté, de notre caractère. C'est le siège de notre intelligence aussi. Donc, on voit que derrière cette notion de cœur, eh bien, ça vient toucher profondément, finalement, ce que nous sommes. Et en fait, ce que Jésus est en train de dire quand il est en train de nous parler d'avoir un cœur pur, eh bien, il est en réalité en train de parler de la pureté de notre être intérieur, de la pureté de ce qui fait de ce que nous sommes, de la pureté de notre personnalité, de la pureté de ce que nous projetons autour de nous au travers de notre vécu, au travers de notre vie, au travers des mots que nous disons, au travers des actions que nous menons, parce que finalement, tout ce qu'on vient de voir là, ça projette tout ce que nous sommes, ça projette notre personnalité. Et donc, voilà ce que quand Jésus nous parle de pureté, un cœur pur, eh bien, il est en train de parler de notre être intérieur, de ce que nous sommes. Alors, on va regarder un petit peu cette notion justement de pureté par rapport à l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on voit, parce que la pureté, cette notion de pureté, on va le retrouver dans toute la Bible en fait. Mais il y a quand même une petite différence, si je puis dire comme ça, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Voilà. Dans l'Ancien Testament, cette notion de pureté, eh bien, il suffit de lire le Lévitique, les Nombres, etc. Elle est surtout codifiée, c'est un rituel cérémonial, même si bien sûr derrière tout ça, Dieu recherche quelque chose de précis dans le cœur du peuple d'Israël, parce que dans l'Ancien Testament, on va surtout voir par rapport au peuple d'Israël, si on prend toutes les lois qui ont été données, eh bien, le sens de toute cette loi-là, c'est pour justement atteindre cette notion de pureté. Mais on voit encore, par exemple, celui qui était considéré impur dans l'Ancienne Alliance. Encore une fois, il suffit de relire les textes. Il me semble d'ailleurs assez hard, si je puis dire comme ça, parce que Dieu était très fin dans, par exemple, celui qui n'était pas pur, il ne mettait pas en application certaines lois, par exemple, et il devait être lapidé. Enfin, ça allait très loin, quoi. Mais tout ça, c'était donc codifié par la loi. C'était, il fallait faire les rites, hein, les sacrifices, etc. Tout ça, il y avait des cérémonies. Hein, mais en tout cas, ce qui se passait dans l'Ancien Testament, ça reflétait quand même le désir du cœur de Dieu. C'est pas rien, cette notion de pureté, même dans l'Ancien Testament. Et en tout cas, je vous rappelle aussi hein, que tout ce qu'on va lire dans l'Ancien Testament, hein, c'est Paul qui va le dire, eh bien, ce sont l'image des choses à venir. C'est-à-dire qu'on doit quand même en retirer des éléments. Hein, ce n'est pas pour rien que Dieu avait mis à l'époque, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, tous ces éléments-là, ils ont bien sûr aussi leur importance. Mais alors, on voit quand même que dans le Nouveau Testament, ce qui est différent, il y a un peu, peut-être beaucoup différent, hein, c'est que dans le Nouveau Testament, eh bien, cette notion de pureté va toucher notre moralité. C'est plus simplement d'accomplir des rites, c'est pas codifié comme dans l'Ancienne Alliance, mais c'est quelque chose qui vient toucher notre nature propre. C'est-à-dire que la pureté extérieure de l'Ancien Testament, on va dire, hein, qui était révélée, par exemple, si je respectais les rites, si je respectais les cérémonies, si je respectais ce qui était codifié, hein, ce qui était manifesté dans mon être extérieur, on va dire, eh bien, dans le Nouveau Testament, Jésus, notamment, hein, donc Dieu est en train de mettre en avant quelque chose de plus profond, c'est-à-dire qu'elle devient vraiment intérieure. C'est pas seulement notre apparence extérieure. Hein, d'ailleurs, Jésus va faire plusieurs paraboles dans ce sens. Donc, la pureté extérieure de l'Ancien Testament devient intérieure. Alors, la question que nous pouvons nous poser ce matin, mais comment atteindre? Et on va voir qu'il y a là une notion très importante. Comment avoir un cœur pur? Enfin, si je suis intéressé, maintenant, si avoir un cœur pur, ça ne m'intéresse pas, OK, mais si je suis intéressé par avoir un cœur pur, encore une fois, je suppose que vous l'êtes, hein, si vous êtes là ce matin, hein, si vous voulez faire partie de cette famille de Dieu, si vous voulez vivre le royaume de Dieu, eh bien, vous êtes forcément intéressé par ce que Jésus a dit dans ce verset 8, plutôt de Matthieu 5, hein, « Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu ». Jésus, donc, va donner un certain nombre d'éléments. Je pense que vous les connaissez déjà, mais ce matin, j'aimerais vraiment vous dire à quel point c'est important. Donc Jésus va dire, on va le lire dans Jean chapitre 15 au verset 3, « L'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendu ». Donc là, Jésus pose quelque chose de précis hein, par rapport à cette notion de pureté. Pour être pur, eh bien, Jésus dit ici dans ce texte que c'est l'enseignement qu'il nous donne. L'enseignement que Jésus nous donne, eh bien, nous rend pur. C'est quoi l'enseignement? Enfin, comment est-ce que je peux prendre en compte l'enseignement que Jésus va me donner? Eh bien, si on lit ce texte d'Éphésiens, au chapitre 5, versets 25 à 27, il nous est dit « Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même par elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » On va prendre d'autres textes, hein, mais j'aimerais m'arrêter un petit peu sur ce verset 5 là, hein, qui nous dit clairement la chose. Elle nous dit que Jésus, qui a aimé l'Église et qui s'est donné pour elle, eh bien, il conduit cette Église à la sainteté après l'avoir purifiée par l'eau de la parole, c'est-à-dire par ses enseignements, comme on l'a lu tout à l'heure dans Jean 15. Tout ça pour dire donc, en fait, si je veux avoir un cœur pur, pour le dire autrement, eh bien, j'ai besoin d'être lavé par l'eau de la parole. C'est quoi l'eau de la parole? Ben, c'est la parole de Dieu, c'est ce que Dieu nous dit dans la Bible. Alors, je ne sais pas si vous aimez, enfin, je vais vous dire, mais est-ce que vous lisez la parole? Est-ce que je peux avoir un cœur pur si je nie jamais ma Bible? Est-ce que je peux avoir un cœur pur? Est-ce que je peux être lavé par l'eau de la parole si je ne la lis pas? Ou si je ne la médite pas? Parce que plus que la lire, il faut se quitter, bien sûr. En tout cas, ici, dans ce texte, on voit quand même une notion. Parce que Paul va dire aux Éphésiens ici que Christ, hein, qui a aimé l'Église, eh bien, il veut la conduire à la sainteté. Et je vous rappelle ce texte aussi qui nous est donné, hein, où il nous est dit « Soyez saints comme je suis saint ». Eh bien, voilà, ça c'est le cœur de Dieu aussi qui veut nous amener à la sainteté comme lui-même est saint. Mais je ne peux pas être saint si je ne suis pas purifié et lavé par l'eau de la parole. Donc, cette importance d'avoir un cœur pur, d'être purifié, je ne peux pas être considéré comme saint si je ne suis pas purifié par la parole de Dieu. Je ne peux pas être saint, je ne peux pas être conduit à la sainteté sans que cette parole de Dieu vienne impacter ma vie, vienne faire son œuvre en moi. C'est quelque chose qui n'est pas possible. En tout cas, moi je le réalise très bien dans ma vie. Je ne sais pas si vous le réalisez dans votre vie, mais moi je le réalise très bien dans ma vie. J'ai besoin de la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu qui vient s'imprégner en moi et qui vient me transformer, qui vient changer ma mentalité. Alors, je vous rappelle ce qu'on a vu tout à l'heure dans cette notion de cœur, eh bien, qui vient changer mes émotions, mes désirs, qui vient changer mon caractère. Quand je lis cette parole de Dieu qui vient toucher ma vie, eh bien, il y a des choses en moi qui sont changées, transformées. Eh bien, c'est ça, c'est quand Paul va dire aux Éphésiens ici, verset 26, que cette eau, qu'on est lavé, purifié et lavé par l'eau de la parole, oui, c'est la parole de Dieu vient laver en moi ce qui n'est pas juste aux yeux de Dieu. Alors, je suppose que c'est la même chose pour vous. Dans Hébreux, au chapitre 4, au verset 12, des versets 12 à 13, il nous est dit ici, car la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Et elle reste toujours en vigueur. Elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être, articulation et moelle, donc il nous parle ici de notre vie intérieure, bien sûr, jusqu'à la ligne de séparation entre la vie et l'âme et celle de l'esprit. Elle discerne, elle révèle les sentiments et les penchants du cœur, elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. Moi, je sais que c'est vrai en tout cas, parce que je le vis. Et encore une fois, moi, je ne sais pas ce que vous vivez, mais moi, quand cette parole de Dieu que je lis, que je vis, eh bien, voilà, elle vient me montrer. Elle vient me montrer là où je suis sur le côté par rapport à la pensée, la volonté. Elle vient me montrer, comme on vient de lire d'ailleurs, elle discerne, elle révèle les sentiments. J'ai besoin de cette parole. Je ne peux pas vivre sans la parole de Dieu. L'enfant de Dieu ne peut pas vivre sans cette parole, sans méditer et lire la Bible. C'est impossible. Je ne pourrai jamais avoir un cœur pur si je ne médite pas sa parole. Et comme le dit au verset 13 ici, de toute façon, tout est nu, tout paraît découvert aux yeux de celui à qui nous aurons à rendre compte. Ça aussi, il ne faut pas qu'on... Dans Deutéronome chapitre 32, verset 2, « Que mes instructions se déversent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme les ondées sur la verdure, comme les gouttes d'eau sur l'herbe. » Alors ce petit verset, d'ailleurs, je l'ai rajouté ce matin dans mon diaporama que je vais préparer la semaine. Et je l'ai rajouté ce matin parce que hier, dans le calendrier, eh bien, c'est un des versets qui était cité. Et j'ai trouvé ça intéressant. Cette notion de parole qui tombe comme la rosée, ça veut nous dire quoi? Et puis, comme ces gouttes d'eau sur l'herbe, eh bien, la rosée, hein, c'est une goutte à la fois, hein, c'est une goutte qui tombe. Moi, j'ai cette image-là. Et cette parole, elle vient tomber dans mon cœur. Cette parole, elle vient, quand je médite la parole de Dieu, vous savez, en tout cas, je sais, moi, personnellement, que je n'ai pas encore tout compris de la parole de Dieu, que j'ai tellement besoin que Dieu me parle encore par sa parole, que j'ai tellement besoin que je suis incapable de tout comprendre, de tout saisir comme ça du jour au lendemain. Mais ce qui est extraordinaire, frères et sœurs, c'est que cette parole, eh bien, elle vient, mais je suis certain que vous l'avez expérimentée. Elle vient, puis elle tombe dans notre cœur. D'ailleurs, bien souvent, mais si ce n'est pas toujours, au moment où on en a besoin. C'est comme cette goutte d'eau qui vient nous éclairer, qui vient nous rafraîchir, cette parole de Dieu qui vient nous montrer le chemin là où on doit aller, hein, pour vivre le royaume de Dieu, juste au fond de Dieu. Elle est cette parole, Et le propre de la rosée, enfin, vous savez, c'est qu'elle arrive chaque matin. C'est la rosée, elle se renouvelle. On ne l'a pas une fois dans notre vie et puis après, c'est tout. Eh bien, frères et sœurs, que c'est cette parole de Dieu, on a besoin de cette nourriture tous les jours. On a besoin que cette rosée, eh bien, qu'elle vienne dans notre vie chaque jour. Dans Ézéchiel, au chapitre 36, le prophète va dire « Je verserai » donc de la part de Dieu, c'est Dieu finalement qui nous parle ici. « Je verserai sur vous l'eau pure qui vous purifiera. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toute votre idolâtrie. » Ça, c'est ce que le prophète va dire ici. Alors, il va dire plusieurs choses. Donc, je vais vous les verser. Donc, au verset 25, « Je verserai qui vous purifiera. » Au verset 26, va dire « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Et puis, il va dire au verset 27, je mettrai en vous mon esprit, je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer, de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Dans ces trois versets d'Ézéchiel, eh bien, bon, j'ai souligné en rouge là, mais parce qu'il me semble qu'il y a une progression d'ailleurs. Et je pense que c'est important de prendre en compte cette progression. Le premier, donc le verset 25, il me dit « Je verserai sur vous l'eau pure qui vous purifiera », c'est-à-dire « Je verse sur vous enfin, cette parole qui nous a été laissée », je vous rappelle, donc cette parole que nous devons, avec laquelle nous devons nous rafraîchir chaque jour. Eh bien, quand je prends cette parole, quand pour moi elle est importante, quand elle fait partie de ma vie, eh bien, ça c'est la première chose. Je reçois de la parole. Et parce que je reçois cette eau de la parole qui vient me purifier, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Je vous donnerai un cœur nouveau. Si je ne reçois pas cette eau de la parole, comment est-ce que je peux avoir un cœur nouveau? Le cœur nouveau arrive parce que je reçois en moi cette eau pure qui vient me purifier. Et puis, le troisième élément qu'on voit dans ces trois versets, eh bien, je mettrai en vous mon esprit et je vous rendrai capable. Cette parole, cette eau pure, cette parole de Dieu qui vient me purifier, qui me donne un cœur nouveau, eh bien, il y a l'Esprit de Dieu qui rentre en action, et parce que je peux lire cette parole, et puis c'est juste un texte comme ça, on ne touche même pas. Hein, mais parce que je lis cette parole de Dieu, parce que je la prends en compte, parce qu'elle est importante pour moi, il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur, et ce qui se passe dans mon cœur, eh bien, c'est que le Saint-Esprit va venir graver en moi les choses. Et parce que le Saint-Esprit va faire son action dans ma vie, eh bien, cette parole que j'ai, cette eau pure que je prends en compte dans ma vie, qui est importante pour moi, cette parole de Dieu qui me donne ce cœur nouveau, eh bien, cet Esprit de Dieu me rend capable d'obéir, me rend capable de prendre en compte les enseignements que Jésus nous donne. Sans cet esprit, je ne sais pas si enfin, cette eau pure, finalement, peut atteindre cette capacité de me purifier. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais il y a ces trois éléments. Dieu, par sa parole est réellement cette eau pure qui me purifie. Cette eau pure, quand j'ai ce désir profond qu'elle fasse partie de ma vie, eh bien, Dieu fait en sorte qu'il nous donne un cœur nouveau. Et parce que j'ai ce cœur nouveau et que le Saint-Esprit vient agir, alors il me rend capable. De par nous-mêmes, frères et sœurs, on n'a pas cette capacité, mais avec le Saint-Esprit, eh bien, Dieu nous rend capable. Alors, voilà ce que je voulais vous laisser ce matin. Je ne veux pas être long ce matin, mais je voulais simplement vous montrer à quel point, quand Jésus nous parle et nous dit, dans ce verset, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu », c'est-à-dire « heureux ». Alors moi, j'ai failli oublier ce verset que je voulais vous laisser aussi, et je vais vous le lire donc. « Oui, mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons alors tel qu'il est. Tous ceux qui portent dans leur cœur cette espérance fondée sur le Christ veillent à leur pureté intérieure pour être pur comme. Voyez-vous, enfin, voilà, ce texte nous dit quelque chose de lié aussi, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il nous parle à tous ceux qui portent dans leur cœur cette espérance. D'où la question que je vous ai posée tout à l'heure, d'ailleurs. Est-ce que, pour vous, avoir un cœur pur est quelque chose d'important? Parce que si ce n'est pas important pour vous, quelque part, si ce n'est pas important pour vous, je devrais dire autrement, dire si ce n'est pas important pour nous, enfin, ou chacun d'entre nous, en tout cas, la question nous revient. Ici, Jésus, quand il va nous dire « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu », eh bien, il s'adresse aux enfants de Dieu qui vivent le royaume de Dieu, qui portent dans leur cœur cette espérance. Eh bien, si c'est mon cas, et si c'est votre cas, frère, eh bien, l'apôtre Jean, ici, va dire « Alors, cela, c'est-à-dire toi et moi, eh bien, nous veillons à notre pureté intérieure parce que nous avons ce désir d'être pur. » Frères et sœurs, est-ce que c'est vraiment notre... Chacun d'entre nous, on ne peut pas parler pour l'autre. Je ne peux pas parler pour mon voisin, ma voisine. Je ne peux pas parler pour mon frère, pour ma sœur. Je ne peux parler que pour moi. Est-ce que dans mon cœur, je porte espérance? Est-ce que je veille sur ma pureté? Est-ce que c'est important pour moi de veiller sur ma pureté intérieure afin d'être pur comme Jésus? Eh bien, là, si c'est le cas, alors je suis celui qui lit la parole de Dieu, qui la médite et qui reçoit enfin, ce cœur nouveau, et par le Saint-Esprit, Dieu est celui qui vient me rendre capable. Et ça, je vous assure que c'est dit, je vous assure. Mais encore une fois, je suis sûr que vous avez fait cette expérimentation, que vous le savez et que vous le vivez. En tout cas, c'est ce que nous voulons vivre. Je crois que ce matin, eh bien, c'est comme un encouragement à persévérer enfin, dans cette nourriture qui est nécessaire pour chacun d'entre nous chaque jour. J'ai besoin de cette nourriture dans ma vie, comme la rosée qui tombe jour après jour sur l'herbe. Alors, voilà, j'arrive déjà à ma conclusion. Eh bien, en tout cas, pour redire le verset autrement, parce qu'il me semble que c'est le sens, hein, voilà comment je vais dire les choses, eh bien, sont bénis par Dieu ceux qui méditent et cherchent de tout leur cœur à vivre la parole de Dieu. À ce moment-là, l'action du Saint-Esprit écrira en eux sa parole et transformera leur façon d'être et de vivre en les rendant de plus en plus intimes de Dieu jusqu'à les rendre purs, semblables. Voilà mon souhait pour déjà ma vie, en tout cas, mais c'est mon souhait aussi, frères et sœurs, pour chacun d'entre vous, que cela ait pour nous une importance. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront. Voilà ce que je voulais vous laisser. Je ne peux pas avoir le cœur. Enfin, la seule façon de recevoir ce cœur pur, frères et sœurs, c'est de se laisser toucher, changer, transformer. Je dois devenir... Enfin, il y a ce texte qui nous dit, enfin, vous le savez, et c'est une grâce hein, où Dieu est celui qui vient écrire dans nos cœurs. C'est, je suis celui, encore une fois. Pourquoi je dis je suis celui? Parce qu'encore une fois, je ne peux pas m'engager pour vous. Hein. Mais je suis celui qui désire profondément et qui recherche profondément le fait que Dieu écrit ses lois dans moi. Et je comprends et je me dis à quel point c'est important. J'en ai tellement besoin de lire et de méditer. Je crois que c'est le sens profond de ce verset que j'ai encore une fois. Heureux ceux qui, car ils verront. Mon cœur pur, mon cœur devient pur par l'action. Mon cœur devient pur par l'action de sa parole qui, grâce au Saint-Esprit, grâce à l'Esprit de Dieu, eh bien, change ma vie. Voilà ce que je voulais vous laisser, frères et sœurs, ce matin.